Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire. Rire.
Bien dormir.
Bouger. Faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi, j'espère que vous allez bien. Marianne Paquette derrière le micro, je vous accompagne au cours de ces 30 prochaines minutes. C'est la dernière de ces bons pour la santé de la semaine sur Canal M. Eh bien, on estime qu'au Canada, il y a environ 11 millions de personnes qui contractent une intoxication alimentaire chaque année. Je pense que l'on peut dire que c'est assez fréquent, mais ô combien désagréable pour ceux qui l'ont déjà vécu. Par chance, c'est habituellement pas très grave, une intoxication alimentaire, mais ça peut quand même avoir des conséquences plutôt sérieuses sur la santé. Tout à l'heure, en deuxième partie d'émission, j'en parlerai davantage avec Jocelyne Gadebois, elle qui est infirmière. Donc, comment on peut prévenir et bien sûr traiter les intoxications alimentaires. Et puis, d'abord, la plupart d'entre nous, on a eu à prendre un moment ou l'autre de notre vie des antibiotiques, que ce soit dans le cas d'infections urinaires, de sinusite, de bronchite, tout ce qui finit en « it », otite, aussi acné également. Et on a eu le loisir de tester leur efficacité ou pas, hein, c'est selon. Depuis leur découverte, les antibiotiques ont sauvé des millions de vies. Puis en même temps, j'avais envie de vous parler d'un petit sondage qui n'est pas très récent, qui date de 2006, dirigé par Léger Marketing, et qui révélait que les Canadiens connaissaient mal les antibiotiques et qu'ils étaient souvent confus face à eux. Aujourd'hui, on demande à Patrick Paquette, microbiologiste agréé, également biochimiste et président de l'Association des microbiologistes du Québec, de nous éclairer sur les antibiotiques. Patrick Paquette, bonjour.
Bonjour.
Vous n'êtes pas mon frère, pas mon cousin, pas mon oncle, on va le dire d'entrée de jeu. Patrick, je le disais tout à l'heure, ça a sauvé depuis leur découverte, les antibiotiques, des millions de vies, mais aussi ça a permis de contrer, de combattre des maladies qui étaient mortelles autrefois.
Oui, effectivement, c'est une... je vous dirais que la découverte des antibiotiques et le développement des vaccins en parallèle sont vraiment d'importants progrès que la médecine a connus, surtout au niveau de la santé publique, pour tout ce qui est de la prévention et du traitement de nombreuses maladies infectieuses qui, comme vous le soulignez avant, étaient mortelles et qu'aujourd'hui peuvent être traitées beaucoup plus facilement.
Oui, et votre parallèle avec les vaccins est plutôt intéressant parce que les vaccins, c'est plus à titre peut-être préventif.
Oui.
Tandis que les antibiotiques, là, c'est déjà quand on a passé par-dessus la clôture qu'on est rendu à traiter.
Oui, effectivement, les vaccins et antibiotiques, c'est vraiment, à mon sens, des outils qui sont complémentaires dans l'optique où est-ce que le vaccin, lui, va vraiment travailler en amont au niveau de la prévention des maladies infectieuses. Il y a certains vaccins qui servent aussi à traiter, comme exemple le vaccin de la rage, quand il est donné rapidement après la morsure d'un animal enragé, on peut prévenir la maladie. Mais de façon générale, on parle souvent de vaccins comme étant une mesure de prévention versus un antibiotique qui, lui, va travailler plutôt en aval de la maladie infectieuse, puis va venir plutôt aider notre système immunitaire à traiter l'infection.
Mais est-ce que l'on peut dire que dans la communauté scientifique, la découverte des antibiotiques, ça a été majeur?
Oui, je pourrais vous dire que ça a beaucoup changé le rapport qu'on avait vis-à-vis des micro-organismes, le rapport que la société avait vis-à-vis des maladies infectieuses. Et à ce niveau-là, beaucoup d'améliorations au niveau de la santé, de la qualité de vie des gens, de l'espérance de vie que la découverte des antibiotiques a apporté.
Ça a été découvert en quelle année? C'était difficile selon... Certains me disaient, 1928, d'autres 1940, c'est dans ces eaux-là. Là.
Oui, c'est dans ces eaux-là. En fait, c'est en 1928, pour être très précis, qu'Alexander Fleming, qui est un microbiologiste anglais, qui a été le premier à démontrer qu'une certaine variété de moisissure, qui s'appelle Penicillium notatum, avait la capacité de synthétiser une substance antibactérienne qui lui a nommé la pénicilline par rapport au nom de la moisissure. Mais il a fallu attendre quand même une dizaine d'années, donc en 1939, pour qu'on ait la mise au point de premiers traitements vraiment antibiotiques à base de pénicilline pour guérir des infections. Et c'est ce qui a amené en 1945 le prix Nobel à Dr. Fleming, ainsi qu'à Dr. Florey et Chain, qui eux avaient contribué à développer le traitement à base de pénicilline.
La pénicilline, c'est un antibiotique.
C'est un antibiotique, oui. Mm-hmm.
Maintenant, Patrick, pourquoi on prescrit? Bon, on en prescrit beaucoup en Amérique du Nord, en Europe aussi. Bon, tantôt, je donnais des exemples, infections urinaires, par exemple, tout ce qui finit en « it ». Bon, on les prescrit pour ces pathologies-là. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi? Pourquoi les antibiotiques peuvent être efficaces?
Mais les antibiotiques, si on retourne vraiment à la base, là, c'est des molécules qui sont naturelles ou synthétiques et qui ont la capacité de tuer les bactéries ou de bloquer leur croissance. Mm-hmm. Donc, la prescription d'antibiotiques, elle est exclusivement pour le traitement d'infections bactériennes. Mm-hmm. Donc, peu importe le type d'infection, il existe aujourd'hui, on a une très, très grande gamme d'antibiotiques. On est loin de l'époque d'Alexander Fleming où on avait uniquement la pénicilline. Donc, aujourd'hui, on a un arsenal thérapeutique assez développé. Chaque antibiotique a ses forces, a ses faiblesses, vise une maladie infectieuse en particulier ou un groupe de maladies, mais de façon globale, c'est uniquement pour le traitement d'infections bactériennes.
Et c'est intéressant de retourner à la base de la signification de ce mot-là qui est anti-contre. Antibiotique vie, je crois, donc contre la vie quelque part, Patrick.
Ben c'est sûr que si on s'arrête à une définition vraiment au mot, oui, on pourrait dire contre la vie, mais à ce niveau-là, on pourrait plutôt l'extrapoler en disant contre la vie microbienne qui s'en prend à notre organisme. Mm-hmm. Là. Parce que si on prend des antibiotiques pour préserver notre qualité de vie.
Mm-hmm. Mais en même temps, ce que l'on reproche parfois aux antibiotiques, c'est de, oui, s'attaquer à ce qui nous rend malade, mais en même temps aussi de peut-être tuer des bactéries qui sont saines.
Oui, ça, c'est un... Ben, en fond, ce que vous appelez, c'est la dysbiose. Le principal effet néfaste qui est causé par la consommation d'antibiotiques, parce que comme on le dit depuis tantôt, c'est important de consommer des antibiotiques quand les médecins les prescrivent pour traiter une infection, mais dans notre corps, il n'y a pas uniquement des infections, des bactéries néfastes, on a des bonnes bactéries. Et quand on consomme des antibiotiques, ces bonnes bactéries-là sont aussi affectées par la prise d'antibiotiques.
Ouais.
Puis la dysbiose, qu'on appelle, donc, qui est vraiment le déséquilibre que ça va créer au niveau de la flore, surtout au niveau de la flore intestinale ou au niveau de notre microbiote, ce déséquilibre-là qui est apporté par la prise d'antibiotiques, ça peut causer différents effets secondaires, dont entre autres la diarrhée, qu'on va appeler la diarrhée associée à la prise d'antibiotiques, mais aussi une série de symptômes plus ou moins spécifiques comme des crampes, douleurs intestinales, ballonnements, gaz, difficultés au niveau du transit intestinal, qui sont tous des effets secondaires associés à la prise d'antibiotiques.
Mm-hmm. Mais qui peuvent être prévenu aussi.
Il y a différentes façons de les prévenir, c'est plus ou moins facile, je vous dirais, parce que l'antibiotique a tellement souvent un spectre large que même si on en consomme pour traiter une infection urinaire bien en particulier, l'antibiotique ne fera pas nécessairement la distinction entre les bonnes et les mauvaises bactéries. De nos jours, on a de plus en plus d'antibiotiques à spectre plus étroit, qu'on appelle. Donc, au lieu de ravager, si on peut dire, la flore bactérienne du corps, va cibler des groupes plus particuliers, mais on n'est jamais à l'abri d'effets secondaires associés à ça.
Est-ce qu'il est préférable, Patrick, de demander à son médecin, lorsqu'il y a prescription d'antibiotiques, un antibiotique de type à spectre étroit?
Mais je vous dirais qu'à ce niveau-là, il faut vraiment se fier au jugement clinique du médecin. C'est vraiment lui qui est le mieux placé pour évaluer la condition médicale, le type d'infection, les pathologies sous-adjacentes que le patient peut avoir. Et c'est vraiment lui qui va être le mieux à même de choisir l'antibiotique, parce que des fois, il y a des situations qu'on appelle de co-infection ou de surinfection, où est-ce qu'on veut traiter une première pathologie, mais des fois, on suspecte qu'il y en ait une deuxième infection en même temps. Donc, je vous dirais que le médecin, c'est vraiment la meilleure personne pour le choix de l'antibiotique. Puis à la limite, le pharmacien peut toujours aussi intervenir puis vous conseiller à ce niveau-là.
On prescrit des antibiotiques lorsqu'il y a présence de bactéries. Or, souvent, et je pense qu'il y a un pourcentage lié à ça, c'est souvent des virus, là, quand on parle de rhume, bronchite, etc. C'est quoi le pourcentage à peu près?
C'est environ 70 %. Quand on parle d'infection au niveau des voies respiratoires supérieures, donc tout ce qui est rhume, maux de gorge, éternuement. En général, un bon 70 %, c'est des infections virales. La balance, le 30 % va être plutôt d'origine bactérienne.
Est-ce que c'est possible de le savoir, si, que ce soit nous, notre enfant, notre conjoint, de savoir, OK, là, c'est une bactérie, en non, ça, c'est un virus?
Nous, dans notre maison, très difficilement. Par contre, pour les gens qui veulent pas nécessairement aller chez le médecin, de risque d'attendre longtemps pour se faire dire finalement que c'est une infection virale, puis donc il n'y a pas de prescription de traitement associé, il y a toujours la possibilité de contacter Info Santé avec des infirmières qui sont très compétentes, 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, et qui, elles, vont pouvoir prendre en compte, oui, les symptômes que vous décrivez par rapport à votre infection respiratoire ou quelque autre infection, mais aussi prendre auprès de vous plusieurs autres enseignements qui vont leur permettre de juger si il y a nécessité ou non de consulter un médecin. Et s'il y a nécessité de consulter un médecin, est-ce que c'est nécessaire d'y aller maintenant ou s'il y a un délai de quelques jours qu'on peut attendre encore de façon sécuritaire? Mm-hmm. Mais dans tous les cas, ce qui est vraiment à proscrire, c'est tout ce qui est autodiagnostic et autotraitement. Donc, je m'en vais sur Internet, j'écris mes symptômes et je cherche à trouver ce que j'ai. Ça, c'est pas une... Moi, j'encourage les gens à rester critiques, à se renseigner, à vouloir en apprendre plus sur les micro-organismes. Mais quand on parle vraiment de notre état de santé, je crois que d'abord, de valider avec un professionnel de la santé compétent, et par la suite, on pourra avoir le loisir de se renseigner davantage de façon personnelle sur la question.
Au même titre que l'autodiagnostic n'est pas souhaitable, il y a un protocole à suivre avec l'usage des antibiotiques.
Oui, ça, c'est toujours important de suivre la posologie, donc le nombre de capsules que le médecin prescrit, puis sur la bonne période de temps. Parce que souvent, ce qu'on peut observer, c'est que les gens, bon, sont malades, commence à prendre des antibiotiques. Exemple, je dis un chiffre totalement au hasard, le médecin en a prescrit pour 5 jours. Après 3 jours, je me sens bien, j'ai plus de symptômes, ben je me dis, ben j'ai pas besoin de consommer la suite des antibiotiques. Mais c'est souvent là qu'on fait l'erreur parce que l'antibiotique a fait son effet, a commencé à détruire les bactéries et peut-être rendu au 3e jour, il n'y a plus suffisamment de bactéries pour me donner des symptômes, mais il y en a suffisamment encore pour me rendre malade à nouveau.
Ah,
et donc,
oui.
Si j'arrête de prendre l'antibiotique, mais je donne peut-être la chance au groupe de bactéries qui n'étaient pas encore détruites, soit par notre système immunitaire, soit par l'action des antibiotiques, de revenir à la charge et là, de recréer de ramener, si on peut dire, l'infection, puis sans compter que interrompre une antibiothérapie avant son terme, c'est aussi un facteur de risque pour le développement de résistance aux antibiotiques.
Oui, ben voilà, parce que si on redéveloppe la bactérie, et là, ben on reprend un cycle d'antibiotiques, mais finalement, notre corps, j'imagine, parce que on veut en parler de ça, c'est assez important, Patrick, la résistance aux antibiotiques, ça préoccupe la communauté scientifique ici, mais ailleurs également. C'est quoi, premièrement, la résistance aux antibiotiques, puis ça se développe comment?
Bien, la résistance aux antibiotiques, de façon très simple, c'est la bactérie, à force de... Là, je parle des bactéries en général, à force de les exposer aux antibiotiques, finissent par développer une résistance. Parce que la bactérie, c'est un organisme vivant qui cherche à se multiplier puis à se perpétuer à travers les générations. Et donc, plus on la soumet à un traitement qui a tendance à vouloir la tuer ou l'inhiber, plus la bactérie va chercher des façons de survivre au traitement antibiotique.
Mm-hmm.
Puis donc, quand on regarde au niveau d'une distribution normale, si on est en laboratoire, puis on regarde une distribution normale de micro-organismes, il y en a toujours un infime pourcentage qui va résister à l'antibiotique de façon naturelle, de façon aléatoire. Donc, si je traite l'ensemble des bactéries avec mon premier antibiotique, bien, j'ai peut-être 99,9% qui vont mourir parce qu'ils étaient sensibles, mais le 0,1% qui survit parce qu'il est résistant, lui devient la nouvelle génération.
Mm-hmm.
Donc, en ce multipliant, je retrouve un 100% de bactéries qui est résistante. Et encore là, à travers ce 100%-là, j'ai encore une petite portion qui est super résistante. Donc, quand je donne le deuxième antibiotique, la population meurt. Et là, c'est seulement le 0,1% du 0,1%.
Ouais.
Et donc, vous comprenez la suite des choses. On en arrive aujourd'hui à avoir des bactéries en milieu hospitalier qui sont multirésistantes aux antibiotiques parce qu'ils ont tellement été soumis au cours des années à différentes pressions de sélection, mais c'est les seules survivantes, si on peut dire, de l'hécatombe de l'antibiotique. Et donc là, eux vont nous offrir vraiment un défi très important à relever au niveau de la santé publique.
Bien, et certainement, et ça doit interpeller les médecins, bien, en fait, toute la communauté scientifique, mais les médecins qui, parfois, et j'ai lu certains témoignages par rapport à ça, se retrouvent devant des patients qui ont des infections récurrentes, les antibiotiques ne fonctionnent plus, et là, ils doivent retourner à des techniques, des façons de faire qui datent de plusieurs années pour arriver à aller soigner les gens.
Oui, effectivement, parce que vraiment, tout ce qui touche la consommation les antibiotiques au sens large, c'est vraiment une préoccupation de santé publique, puis je vous dirais même à l'échelle mondiale présentement. Quand on regarde l'Organisation mondiale de la santé, ça fait plusieurs années qu'ils nous répètent qu'on consomme trop d'antibiotiques ou qu'on ne les consomme pas nécessairement correctement.
Ben oui, voilà.
Ici, au Québec, nos médecins, nos professionnels de la santé sont très bien conscients du rôle qu'ils ont à jouer dans l'utilisation responsable des antibiotiques. Donc, en général, ici, on n'a pas de gens incompétents qui prescrivent mal. C'est très rare. Ici, on est conscient. Mais par contre, cette préoccupation-là du problème de résistance, ça dépasse nos frontières. Parce que nous, on s'amuse à cartographier la Terre avec des frontières imaginaires, mais pour les bactéries, il n'y en a pas de frontières. Ouais, puis est aujourd'hui, avec les moyens de transport par aviation, on n'est jamais vraiment à plus de 24 heures de n'importe quelle destination dans le monde.
On l'a vécu avec Ebola, ça.
Oui, effectivement. Ouais. Et donc, comme le soulignait l'Organisation mondiale de la santé, à moins que les nombreux acteurs qui sont concernés agissent de façon urgente puis de manière coordonnée au niveau de la lutte à la résistance aux antibiotiques, mais le monde va vraiment s'acheminer vers une ère qu'on commence à qualifier de post-antibiotique où des infections courantes puis des blessures mineures qui ont été soignées depuis des décennies pourraient à nouveau tuer les gens. Et donc, c'est vraiment ça la problématique, c'est que c'est pas juste nous de faire attention, nous on le fait bien, mais c'est de s'assurer que l'ensemble de la planète le fait bien et le fait de façon coordonnée. Et il est là le véritable défi.
Est-ce que le fait qu'il y ait des antibiotiques dans notre viande, peut-être même dans l'eau, vous me corrigez si je me trompe, ça peut aussi avoir un impact sur la résistance aux antibiotiques?
C'est sûr que partout où on retrouve des antibiotiques dans l'environnement, c'est des bactéries qui y sont exposées et une bactérie exposée à un antibiotique finit par développer une résistance. Et c'est là qui nous amène en tant que société à se questionner sur quelle utilisation qu'on fait des antibiotiques, à quoi on veut réserver leur utilité, c'est quoi un peu notre échelle des priorités, pourquoi on l'utilise, pourquoi on ne devrait pas, pour s'assurer de maintenir notre arsenal d'antibiotiques. Puis c'est une question qui devient de plus en plus d'actualité parce que pendant plusieurs années, des nouveaux antibiotiques qui en sortaient fréquemment. Et donc, au fur et à mesure qu'on perdait, si vous me prêtez l'expression, des antibiotiques causés par des résistances, mais on en avait des nouveaux qui arrivaient sur les tablettes, puis c'est un peu un feu roulant. Là, on arrive à la fin. Il y en a de moins en moins qui sont produits. On a pas mal saturé le marché.
Moins de recherche.
Bien, la recherche, il y en a autant, mais je vous dirais que c'est vraiment la limite, si on peut dire, de notre science, de notre technologie. Depuis 1930 à aujourd'hui, on a un peu trouvé le fond du baril, si on peut dire, en termes de nouvelles idées d'antibiotiques. Et là, on se retrouve face aux conséquences, comme vous le soulignez, où est-ce qu'on a des infections qui sont très bénignes puis qui sont très difficiles à traiter parce qu'on fait face à une bactérie qui est multirésistante.
Mais ici, au Québec, et bon, je pense que vous avez bien tenté de le dire tout à l'heure, c'est bien régi au Québec. Au Canada, est-ce qu'on en prescrit trop? Parce que moi, j'ai l'impression que souvent, lorsqu'il y a virus, le médecin va quand même prescrire un antibiotique. Même s'il faut faire confiance à notre médecin, et ça, on veut le répéter, mais vous semblez dire, Patrick Paquette, que c'est bien régi ici.
Oui, c'est bien régi, puis je crois que puis pas juste moi personnellement, on le voit à travers différents colloques, différentes activités de formation professionnelle, les professionnels de la santé sont vraiment conscientisés à cette problématique-là. On a des tables de concertation, on cherche des solutions, on cherche des stratégies, des méthodes alternatives, donc on est vraiment en mode gestion de crise d'une certaine façon, parce que les bactéries multirésistantes, elles vont pas attendre qu'on trouve une solution, elles progressent. Mais je vous dirais que de notre côté à nous, le problème est bien pris en main. Mais maintenant, le véritable défi, c'est d'harmoniser ça à travers la planète, à travers les différents pays, les différentes cultures, les différentes communautés. Et l'Organisation mondiale de la santé, oui, a un rôle important à jouer, mais c'est plus de 150 pays à coordonner. Ouais. Donc, c'est vraiment là que le défi se situe.
Gros boulot. En terminant rapidement, Patrick Paquette, on pourrait en parler longtemps, je m'en rends compte, probiotiques ou pas pendant la prise d'antibiotiques?
Je vous dirais que pour travailler au niveau de l'industrie des probiotiques, quand on regarde la littérature scientifique et médicale, il y a beaucoup de méta-analyses qui montrent qu'il y a vraiment un effet significatif au niveau de la prise d'antibiotiques pour prévenir les différentes, surtout entre autres les diarrhées associées à la prise d'antibiotiques. Par contre, ce que ces méta-analyses-là nous montrent, c'est que les probiotiques vont avoir des effets différents dépendamment des souches. Parce que souvent, on met ça dans le même bateau en parlant de probiotiques. Mais il faut savoir que les différents produits qui sont commercialisés, c'est différentes souches, et les différentes souches ont tous des effets qui leur sont propres. Puis donc, je crois que ce qui est le plus important au niveau de la consommation de probiotiques, c'est vraiment de questionner le pharmacien sur les probiotiques qui ont démontré cliniquement un effet pour le problème de santé qui nous préoccupe, de façon à consommer le bon probiotique pour le bon problème.
Mm-hmm. Patrick Paquette, vous êtes microbiologiste agréé, biochimiste et président de l'Association des microbiologistes du Québec. On peut vous suivre au www.sciencepresse.qc.ca. Vous y tenez un blog fort intéressant, fort concret, accessible. Merci beaucoup, ça a été fort éclairant, Patrick.
Fait plaisir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial_canal_m.
Jocelyne Gadebois, bonjour.
Bonjour, Marianne.
Les intoxications alimentaires, y a-t-il quelque chose de plus désagréable que ça dans la vie?
Oh, que si! Oui, que c'est désagréable. On les voit pas venir tout le temps non plus.
Non, ça arrive assez soudainement. Intoxication alimentaire, moi, j'associe ça à quelque chose qu'on a mangé qui était peut-être pas tout à fait adéquat.
Ça peut être ça, et c'est souvent ça aussi, mais ça peut être aussi d'autres choses qu'on a attrapé de quelqu'un d'autre.
Ah oui!
Parce qu'il faut se dire qu'une gastro-entérite causée par une intoxication alimentaire et parce que ça crée de la diarrhée, des vomissements, c'est très, très contagieux.
Mm.
Alors, tant qu'on a des symptômes, on est mieux de rester chez soi, bien sûr.
Donc, mais une gastro ou une intoxication alimentaire, c'est dans la même famille?
Bien, c'est ça. Ah. Les toxi-infections alimentaires sont essentiellement des gastro-entérites causées par des bactéries qu'on a ingérées présentes dans les aliments.
Mm.
Voilà, tout simplement. Des aliments contaminés.
Mmh.
Alors, ce sont les symptômes qui s'installent de la même façon qu'une gastro-entérite. Bien souvent, on ne sait pas non plus qu'on a mangé quelque chose il y a 3 jours puis que c'est ça qui nous a causé les symptômes. Alors, j'ai des petits conseils là-dessus à donner.
Oui, pour les prévenir, parce que les symptômes, on les connaît. Bon, mais comment prévenir, ça, c'est autre chose.
Bien, c'est ça. Alors, c'est certain qu'on doit aller dans des restaurants ou acheter les produits alimentaires qu'on sait qui sont très bien conservés. On sait qu'acheter dans des endroits connus, il y a des règles, il y a des inspections, puis que les températures sont bien maintenues. Il y a aussi la manipulation d'aliments dans les milieux de vente, mais il y a aussi la contamination qu'on peut faire à la maison. Alors, c'est vraiment le lavage des mains et éviter les contaminations croisées. On parle là aussi particulièrement de la volaille. Quand on coupe une volaille crue sur une planche de bois, bien, on lave tout ça avant de continuer avec d'autres aliments, puis on lave nos mains.
Mm-hmm.
C'est essentiellement les trucs de manipulation des aliments, le lavage des mains, la désinfection des surfaces.
Mais parfois, c'est un virus également. Donc, justement, non, pas nécessairement.
Non,
OK.
Non. Ce sont des bactéries nécessairement.
Voilà. La nuance, est, il faut la faire.
Oui, ce sont des bactéries nécessairement. Ce sont des bactéries qu'on entend parler régulièrement, là, salmonelle, listériose, campylobactère. Qu'est-ce qu'on a par ça? On a du vilio, on a l'acide difficile.
Ben oui.
On en a plein de bactéries.
Et est-ce que la gastro, Jocelyne, c'est aussi une bactérie?
La gastro est causée par une bactérie qui va causer une infection au niveau du système digestif.
Ah, voilà.
Qui va causer une inflammation d'abord. Ça commence toujours par une inflammation, mm-hmm. puis l'infection.
Et puis, est-ce qu'il y a des personnes qui sont plus à risque que d'autres?
Bien oui. On pense tout de suite aux personnes âgées, 65 ans et plus. Puis on dit 65 ans et plus. Les personnes qui sont plus vulnérables, et plus on prend de l'âge, plus on est vulnérable. Les enfants de moins de 2 ans, les femmes enceintes oui. également, puis les personnes atteintes de maladies chroniques. Ce sont les mêmes groupes à risque qu'on transporte un peu partout, là, oui. dans toutes les protections pour attraper des bactéries mm-hmm. ou se prévenir contre les maladies respiratoires, ou etc. Mm-hmm. Ce sont les mêmes groupes.
Et on fait comment pour traiter?
Pour traiter une gastro-entérite, on traite ça souvent à la maison avec des solutions de Pédialyte ou Gastrolyte qu'on prend régulièrement.
Qu'on achète à la pharmacie.
C'est de se réhydrater. Si on vomit, ben on mange pas. Mm-hmm. On attend. Puis on ingère seulement un petit peu de solution Pédialyte. C'est très important, je la nomme. Il y a une petite recette maison, mais on conseille vraiment Pédialyte, Gastrolyte. Puis on attend que les symptômes diminuent. Mm-hmm. Si on fait de la fièvre, si on a des grosses crampes abdominales, si on a du sang dans ses selles, si on a des selles noires, bien, si on fait de la température, on s'en va à l'urgence.
Ouais, hein?
Absolument. Et c'est là, souvent, que les intoxications alimentaires les plus fracassantes là, vont donner des gros symptômes. Pas tout de suite le lendemain qu'on les a mangés, mais 24, 48 heures après, parfois 72 heures après.
Mm-hmm.
Alors, c'est important de toujours se poser la question, j'ai-tu mangé quelque chose qui était contaminé, peut-être? Y a-tu d'autres mondes dans mon environnement qui sont contaminés? Ou bien, est-ce que j'ai contacté quelqu'un qui avait la diarrhée?
Oui. Est-ce qu'il peut y avoir des facteurs aggravants si ce n'est pas traité à temps?
La déshydratation.
Oui, okay.
C'est vraiment la déshydratation. Et ça prend une hospitalisation pour se réhydrater. Ça, on n'est pas capable de le faire à la maison. Et les personnes à risque sont très, 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 très à risque de déshydratation.
Donc là, on passe d'une infection mineure à quelque chose que si on va jusqu'à l'hospitalisation, là, ça devient un petit peu plus sérieux. Là.
Pour réhydrater quelqu'un, bien, c'est le soluté. Puis c'est un débalancement électrolytique complet dans le corps. Alors, il faut vraiment réhydrater avec des solutés.
Donc, c'est l'une des complications.
Oui.
Et puis, Jocelyne, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire? On sait, là, nos parents, ils nous ont tous donné du 7-Up flat ou bon, quoi que ce soit. Là. Des choses peut-être à éviter dans le traitement?
Oui, il y en a beaucoup. En fait, quand on a la diarrhée ou qu'on a des vomissements, dans les deux cas, quand on commence à se réalimenter, c'est très simple, la base. C'est pas de gras, pas de sucre.
Okay.
Et pas de gaz. On fait pas de ginger ale, pas de Coca-Cola. On ne prend que le Pédialyte.
D'accord.
Point à la ligne. Et c'est une solution salée-sucrée, pas juste sucrée.
Parfait.
Voilà la différence.
Et beaucoup de repos?
Beaucoup de repos.
Puis on touche du bois parce qu'on veut pas que ça nous arrive.
Puis on sort pas de chez nous.
Non, ben non, parce que c'est contagieux.
Absolument.
On l'a appris.
Oui.
Jocelyne Gadebois, toujours un plaisir de vous parler. On va se retrouver probablement dans 2 semaines, mais d'ici là, je vous laisse profiter du soleil.
Merci, il fait tellement beau.
Oui. Rémi Hermoso à la mise en onde, c'était Marianne Paquette au micro. Merci d'avoir été là. Merci aussi d'avoir été là tout au long de la semaine. C'est toujours un plaisir de vous parler. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion à 17h. Je vous souhaite un très, très beau week-end sous soleil, je le souhaite. Bonne fête à toutes les mamans pour cette fin de semaine de la fête des mères. On se retrouve lundi. D'ici là, portez-vous bien.